plus d'excuses. Agir contre les violences sexistes et sexuelles au travail et pour une égalité réelle dans la culture et l'économie sociale et solidaire. Un magazine produit par les radios de la CoreLab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, et par Radio Boa, la radio régionale associative bretonne, en DAB+.
Bonjour à toutes et à tous. Comment prendre l'initiative et mener des actions pour sensibiliser à l'égalité et prévenir les risques de violences sexistes et sexuelles dans sa structure ou dans son entreprise? Nous en parlerons dans quelques minutes avec Charlotte Fellman, en charge de ces questions au travail à la CRES Bretagne, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Mais avant, rejoignons justement une action de sensibilisation, celle des salariés de Sevel et des Jeunes Aidors, organisme médico-social qui accompagne les personnes handicapées et les personnes âgées en Bretagne. C'est un sujet de Jeanne Lebacle de SILAB, votre radio associative universitaire dans la région rennaise.
L'idée, c'est voilà, on va poser des questions, chacun, chacune réagit comme il ou elle le souhaite. N'hésitez surtout pas à nous faire des remarques, des commentaires. Vraiment, l'idée, c'est qu'on puisse échanger sur le sujet et que chacun puisse s'exprimer.
Alors, première question. Selon une enquête, combien de femmes ont été confrontées au sexisme au travail en tant que témoins ou cibles? A, 33%, B, 47%, C, 58%, D, 81%.
Monsieur ? 81. Qui est d'accord avec ce chiffre ? Qui dirait moins ?
En fait, l'idée, déjà plus globalement, c'était vraiment d'être sur cette notion de prévention des risques et autour des agissements sexistes, c'est un sujet qu'on a à cœur. Donc Anne-Sophie Gignan-Inven, je suis responsable ressources humaines, plutôt relations sociales et qualité de vie au travail, donc au sein des associations Jeunes Aidors et Sevel Services.
Eh bien, c'était bien 81%.
Quand même, ça fait beaucoup.
Donc, je suis Alice Fernandez-Pétèche, je suis chargée de ressources humaines donc dans le service de Anne-Sophie et je suis également référente associative pour Sevel et pour les Jeunes Aidors, plus particulièrement sur le territoire rennais et morlésien.
Alors, deux associations différentes, on va dire cousines. Les Jeunes Aidors, déjà premièrement, qui est une association principalement implantée dans le Finistère. Le but principal, c'est l'accompagnement de personnes en situation de handicap, de la petite enfance, voilà, jusqu'aux personnes âgées. Et quand on dit accompagnement, ça va être de l'accompagnement soit de professionnels, soit dans la vie quotidienne. Et Sevel Services, on est sur une entreprise adaptée, donc qui compte 76% de son effectif, sont des personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé. Et que donc on va accompagner aussi au niveau professionnel, plus par des adaptations de postes et sur des métiers plutôt autour des espaces verts et de la propreté notamment. Donc on a sur Sevel des agences sur Morlaix, Brest, Quimper, Lorient et donc deux agences à Orgères et Passy. L'idée c'était vraiment d'améliorer les conditions de travail, la qualité de vie au travail. Et voilà, on accent particulièrement sur cette question des agissements sexistes alors dans un premier temps. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez important au niveau de Sevel, puisqu'on voit où on est allé au-delà des obligations légales, c'est-à-dire qu'on a un référent au niveau du CSE et on a désigné en plus des référents agences en complément. Et donc, on a choisi de faire des modalités différentes, en fait, pour aborder ces sujets-là avec un format sensible sensibilisation en assemblée générale des salariés sous un format de d'à peu près 30 minutes.
Pour une situation, est-ce que c'est du sexisme ou pas? Et si c'est du sexisme, dans quelle situation sommes-nous? Avant le service, Nicolas demande à Lucie, tu peux nettoyer les WC, c'est un boulot de femme. Alors, pareil, levez la main pour vous, c'est du sexisme.
Merci.
Donc, c'est du sexisme. Alors,
pour ouais, c'est facile.
Quelle catégorie?
Hostile.
Pour le jeu.
Plutôt.
On a adapté un petit peu effectivement avec le format vidéo, le format quiz qui est issu donc du jeu de l'ANACT, un sexisme sans façon qui nous sert maintenant depuis plusieurs années et qui est vraiment un très bon support qui permet d'aborder le sujet mais d'une manière un petit peu décalée, qui permet aussi à chacun d'avoir un accès vraiment aux échanges parce qu'on sait aussi que dans nos salariés on a certaines personnes qui ont des difficultés d'accès à la lecture voire même à la langue française et le fait d'être dans le questionnement oral ou dans la vidéo, c'est c'est aussi plus facile et leur permet aussi d'être plus dans l'échange.
Donc, est-ce que c'est du sexisme? Si c'est du sexisme, vous levez la main.
Allez, on imagine, on se met en situation, on est dans le restaurant, c'est le matin, et à son arrivée, le patron lance, comme d'habitude, à la serveuse, « Bah, t'as pas encore fait le café pour l'équipe ?» Est-ce que vous pensez qu'on est sur une situation de sexisme? Alors, on se rappelle hein, ce que Alice nous a dit, sexisme bienveillant, avec les guillemets, sexisme masqué, sexisme hostile, ou c'est pas sexiste. Donc, on se met en situation, le patron, il arrive le matin, il lance à la serveuse, comme d'habitude, « Bah alors, t'as pas encore fait le café pour l'équipe ?»
C'est non sexisme. Moi, je dirais la première, là. Le non sexisme.
Non sexisme pour vous?
Ouais.
J'ai entendu masqué aussi.
Hostile aussi.
Au fond de la salle, je vais m'approcher avec
hostile,
le micro.
Hostile.
Ah.
Il y avait à peu près 80 personnes. C'est des agents de service, des chefs d'équipe et des responsables de secteur qui interviennent sur deux de nos agences, donc de Cévelle, l'agence d'Orgère et l'agence de Passé.
Pourquoi du sexisme? Là, on a le patron qui dit, comme d'habitude, à la serveuse, donc c'est toujours la même personne en plus, « Bah alors, t'as pas fait le café pour l'équipe ?» Et en fait, on va être plutôt sur une répartition des tâches selon les stéréotypes de sexe. Parce que c'est une femme, il lui demande de faire le café.
Et qui en plus est serveuse.
Elle est serveuse?
Serveuse, il me semble.
Elle est serveuse, c'est dans son travail. Mais il lui demande toujours qu'elle. On imagine qu'il y a des serveurs et des serveuses. Et c'est toujours à la même serveuse qui demande.
Ah oui, d'accord, mais c'était pas précisé.
Ça renforce encore plus parce qu'on sait que malheureusement, les personnes en situation de handicap, et particulièrement les femmes en situation de handicap, sont encore plus souvent victimes d'agissements sexistes et de discrimination de manière générale. Donc voilà, c'est aussi une manière de renforcer un petit peu la prévention des risques à ce niveau-là.
Là, cette fois-ci, c'était de faire une sensibilisation que sur les agissements sexistes et de revenir l'année prochaine, parce que l'AG c'est une fois par an, voilà, et de revenir l'année prochaine plus sur le volet harcèlement sexuel, agression sexuelle, et de revenir encore l'année d'après éventuellement sur le harcèlement moral. C'était aussi l'idée vraiment de bien scinder ces définitions, quitte à y revenir évidemment quand on présentera les autres types de violences sexuelles et de violences en tout cas des qui concernent les rapports professionnels. Mais c'était important pour nous aussi de faire un format court, parce que là on est sur une AG voilà, qui dure en tout 2 heures sur des professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude des réunions. Et enfin, en tout cas, d'être assis, c'est des travailleurs voilà, qui n'ont pas forcément l'habitude de faire beaucoup de réunions. Donc le but, c'était vraiment de faire une demi-heure sur cette thématique.
Donc une fois qu'on a posé un petit peu ces éléments, qui peut vous accompagner au niveau tant en interne qu'en externe, au niveau de Cévelle? Déjà, un certain nombre d'acteurs internes qui vont pouvoir faire la prévention, la sensibilisation, l'accompagnement, la direction d'agence, nos chargés RH référentes, les référents agences et référents CSE également, dont Alice va vous parler un petit peu plus. Toutes équipes l'encadrant, et on remet les salariés. Et cette bulle-là, on aurait presque pu la mettre vraiment de manière plus importante. Pourquoi les salariés? On sait, l'employeur, l'obligation d'assurer la santé et la sécurité de l'ensemble des salariés. Claude nous a reparlé tout à l'heure du port des EPI. Chaque salarié doit aussi assurer sa propre santé et sécurité, par exemple en portant des EPI. Et on doit aussi faire en sorte, contribuer à assurer la santé et la sécurité des collègues en ne mettant pas les collègues dans des situations qui peuvent mettre en danger leur santé physique et leur santé mentale aussi. Voilà, quand on est sur une situation difficile, parfois on a plus de facilité à en parler directement avec les collègues avec qui on a plus d'affinité par exemple. Et cette première écoute peut être importante et va pouvoir constituer un relais vers toutes les autres personnes qui vont pouvoir intervenir au niveau associatif pour pouvoir aller regarder les choses d'un peu plus loin et puis surtout faire cesser la situation.
Ce temps de formation avec les encadrants, il dure un peu plus longtemps. Là, par contre, cette formation traite à la fois de la prévention contre les agissements sexistes, du harcèlement sexuel, du harcèlement moral. Pareil, sur la base de support vidéo et aussi du jeu de l'ANACT, hein, parce qu'il nous sert vraiment beaucoup dans tous nos éléments de prévention. Donc c'est un temps de formation qui dure plutôt entre 2h30 et 3h. Voilà, on a fait aussi ce type de formation et encore un chouille plus poussé, mais qui dure à peu près 3h, avec les référents CSE et les référents agences qui ont eu un niveau de formation encore un petit peu plus poussé, allant du coup plutôt sur l'accompagnement, la prise de parole aussi, d'accompagnement des victimes présumées, et aussi l'explication sur comment prendre en charge ces signalements et les informations sur la procédure associative qu'on a mis en place pour traiter ces agissements de violence sexuelle et morale. Ça a libéré une parole, ça c'est sûr et certain. Ouais. Ça a été beaucoup plus. On a eu sur certains retours de sensibilisation des salariés qui sont venus et qui ont fait des signalements. Ça, oui. Il y a eu aussi des procédures qui ont pu se mettre en place par la suite. Alors voilà. Mais oui, c'est clair que ça a libéré une parole et c'était ça l'idée. On sait que à un moment donné, quand on met en place ce type de prévention et la procédure qu'on a choisi de mettre en place, le but c'était aussi, on savait qu'il y aurait plus de qu'il y aurait plus de signalements aussi, et c'était tout de l'intérêt pour après justement à terme que ces rapports n'existent plus, enfin en tout cas qui se rapproche se rapproche de zéro, quoi.
Voilà. Que chacun en tout cas sache que c'est pas un tabou et c'est pas voilà. Au niveau, que ce soit au niveau des équipes encadrantes, au niveau de la direction des ressources humaines, c'est pas un tabou de remonter des situations d'agissement sexiste ou d'harcèlement sexuel et que les choses sont prises en compte, sont prises au sérieux. Voilà, c'était vraiment important pour nous. Et c'est vrai que de passer par le biais de ces informations-là, hein, l'idée un petit peu, c'est de semer des petites graines, voilà, et pour que chacun se dise à un moment donné, si j'ai besoin de parler, je sais qu'on me prendra au sérieux, je sais qu'il y aura quelqu'un pour m'écouter. Et ça c'est important pour nous.
Voilà, à l'instant, ce reportage sur cette action de sensibilisation des salariés de Cevel et Légionnaires d'Or, organisme médico-social qui accompagne les personnes handicapées et les personnes âgées en Bretagne. Un reportage signé Jeanne Lebacle de SILAB, votre radio associative universitaire dans la région rennaise. Pour aller plus loin sur ce sujet de la sensibilisation et donc de l'imprégnation progressive du sujet de l'égalité et des violences sexistes et sexuelles dans les structures de l'économie sociale et solidaire, nous sommes en liaison aujourd'hui avec Charlotte Fellmann qui s'occupe de ces questions d'égalité et de prévention du sexisme au travail à la CRES Bretagne, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Charlotte.
Bonjour Nicolas.
Alors, tout d'abord, que vous évoque peut-être le reportage que l'on vient d'entendre sur cette action de sensibilisation des salariés de Cevel et Légionnaires d'Or, cette structure médico-sociale en Bretagne ?
Eh bien, tout d'abord, je trouve vraiment intéressant que vos micros soient allés vers ces structures qui sont vraiment engagées sur la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. Et c'est vrai qu'on l'entend dans le reportage, ils multiplient dans leur organisation des supports pour faire vivre le sujet au quotidien. Et en fait, en travaillant un peu sur ce sujet, on se rend bien compte des difficultés qui sont posées par le côté sensible, on va dire, du sujet. C'est un travail de longue haleine et qui implique aussi des moyens dédiés qui sont toujours complexes à dégager. Du coup, félicitations à elle aussi pour le travail mené. Je dirais qu'il y a trois éléments particulièrement qui ont retenu mon attention. Tout d'abord, la manière dont le sujet est abordé, je viens de le dire, c'est un sujet sensible et je trouve qu'elle l'aborde de manière assez positive. Par ailleurs, on entend effectivement, comme je disais, en filigrane qu'elle multiplie les dispositifs de sensibilisation, de formation. Et du coup, c'est vrai que ça fait partie des éléments importants de pouvoir, à plusieurs reprises dans une année ou régulièrement sur plusieurs années, pouvoir revenir sur le sujet. Et puis ensuite aussi, on entend qu'il y a une réflexion interne sur comment faire au mieux pour libérer la parole des personnes au sein de l'organisation. Et ça, c'est vrai que c'est un gros enjeu pour les structures.
Alors, aborder de telles sensibilisations au sexisme dans des organismes tels que celui-ci, dans cette structure de l'économie sociale et solidaire, j'imagine que ça ne se fait pas n'importe comment. Quelle est pour vous la bonne façon d'aborder ces sujets auprès des salariés? Là, c'était le cas, salariés lors d'une assemblée générale ou même des dirigeants de ces structures.
Alors, moi, je ne suis pas une professionnelle de la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, même si j'ai déjà animé ce type de temps. Et très sincèrement, il n'y a pas de recette magique. Ouais. Disons, le sujet est sensible à de nombreux niveaux. ce qui va du coup poser un frein assez conséquent à lancer le sujet. On a souvent une appréhension de générer une mauvaise ambiance dans l'équipe, parfois le sentiment de ne pas être armé aussi pour entendre les mots qui peuvent être posés en lien avec des signalements. On a peur aussi du nombre de signalements qui pourraient apparaître si on commence à vraiment trop en parler, voire parfois peur des conséquences pour l'image de l'organisation. Bref, des freins, on peut en citer vraiment beaucoup. Je dirais qu'à un moment, il faut être un peu réaliste et puis peut-être démystifier. On entend dans le reportage une statistique avec plus de 80% des femmes qui ont été confrontées à un agissement sexiste au travail, en tant que témoin ou en tant que victime. Bon, c'est assez criant, la probabilité pour que dans une organisation, il n'y ait pas de sexisme ou pas de violence sexiste et sexuelle, elle est quand même proche de zéro. C'est assez déplorable, mais c'est un fait. Du coup, il faut aussi démystifier et puis du coup se lancer, on va dire. C'est le premier moment, on va dire, qui est difficile. C'est la première fois qu'on aborde le sujet qui amène plein d'appréhension. Et puis après, derrière, souvent, c'est plus facile de défiler. C'est vrai que là, comme je disais, la posture qui est proposée dans le reportage est vraiment très intéressante parce qu'elles abordent la prévention du sexisme au travail comme un levier d'amélioration de la qualité de vie et la qualité des conditions de travail. Je trouve que c'est vraiment une approche très positive, justement. Ça démontre que, déjà, d'une part, il y a eu une grande réflexion derrière, et puis ça démontre aussi quelque chose qui est vraiment un ingrédient important. Alors, je disais que j'ai pas de recette miracle. Il y a quand même des ingrédients clés. C'est que quand la prévention des violences sexistes et sexuelles s'inscrit dans une politique de structure, c'est-à-dire qu'elle est explicite, qu'elle est communiquée, et que du coup, elle est portée par les instances dirigeantes, par la présidence, par la direction, par l'encadrement en général, c'est toujours une manière, ça donne beaucoup de force, en fait, pour faire vivre le sujet. Et du coup, c'est une manière qui fait que derrière, mettre en place un temps de sensibilisation, tout d'un coup, devient aussi plus simple. On porte moins sur ses épaules toutes ces appréhensions que j'ai pu citer au début. Après, en étant toujours un peu réaliste parfois, et malheureusement, un des moteurs du sujet, c'est aussi le premier signalement. Et du coup, parfois, on n'a pas la possibilité, effectivement, d'avoir toute cette réflexion de portage, de comment on aborde le sujet. En fait, il nous explose dans les mains, quoi.
Et oui, c'est ça. C'est souvent, ça vient souvent des signalements. Alors ça, c'est pour les premières actions, on va dire, de sensibilisation. Mais derrière, forcément, l'idée, c'est que ces actions finissent par aussi rentrer durablement dans la culture, peut-être des structures. Est-ce que là, il y a des leviers d'appui qui permettent justement que ces actions finissent par vraiment infuser dans la vie de tous les jours de ces structures?
Oui, il y en a. L'année dernière, on a mené une enquête auprès de structures de l'ESS bretonne, justement, pour voir, d'une part, où est-ce qu'elles en étaient sur la prévention des violences sexistes et sexuelles, et puis aussi pour celles qui s'étaient, du coup, engagées, qui avaient engagé un travail sur cette thématique, de voir, justement, qu'est-ce qui avait représenté des points d'appui dans le parcours pour que les choses se mettent en place. Et c'est vrai que ça nous a permis de prendre conscience, de lister, puis on a même publié, du coup, un petit condensé de cette étude, du coup, de pouvoir pointer ça nous a permis de pointer ces leviers. La première, je l'ai déjà dite, c'était le portage par les instances dirigeantes. Il y avait la dimension aussi qui est en lien avec ce portage fort, de pouvoir afficher une politique de type zéro tolérance, et qu'elle soit effectivement mise en place sur les comportements sexistes et les violences sexuelles. C'est évidemment, je l'ai cité aussi, d'avoir des moyens dédiés, voire d'être en capacité de développer un plan d'action avec des objectifs clairs sur la sensibilisation, la formation, la mise en place d'une procédure. Il y a également aussi l'existence d'un plan d'action ou d'un plan, en tout cas, égalité femmes-hommes au sein de l'organisation, et puis un travail de fond sur les risques professionnels en général, dont fait partie le sexisme au travail. Et la qualité du dialogue social aussi dans l'entreprise est un point d'appui assez important. On va retrouver aussi l'implication d'une diversité d'acteurs au sein de l'organisation qui vont être soit formés, soit sensibilisés de manière à ce que ça vive à plein de niveaux de l'organisation. Et puis ça permet de créer une culture commune sur le sujet et ça c'est aussi un point d'appui important. Et puis enfin, il y a aussi la dimension légale, c'est-à-dire que la contrainte par les obligations légales, voire les incitations qui peuvent exister aujourd'hui avec la conditionnalité de certaines aides de la part des pouvoirs publics, ça va aussi pousser les structures à se mettre en mouvement.
Ouais, ça, c'est généralement assez efficace quand il y a une contrainte de ce genre. Il y a effectivement aussi l'idée, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, d'arriver à briser le silence. Silence qui, sur ces sujets qui est parfois tenace dans certaines organisations. Là aussi, on s'y prend comment pour arriver à faire briser le silence qui peut régner dans certaines structures ?
Mais quitte à me répéter, là encore, il n'y a pas vraiment de recette miracle. C'est vrai que c'est un défi pour les organisations. Voilà, la question de comment créer et entretenir les conditions de libération de la parole pour les victimes, mais aussi comme pour les personnes qui sont témoins ou qui sont lanceuses d'alerte aussi, parce que le premier signalement n'est pas toujours de la personne victime. Enfin, voilà, c'est vraiment un enjeu crucial. Là encore, on a des points d'appui sans recette miracle, mais on va avoir la diversification des personnes formées et identifiées comme personnes référentes sur les violences sexistes et sexuelles au travail dans l'organisation et qu'elles soient aussi à tous les niveaux. C'est vrai que dans le reportage chez Cével et les Genêts d'Or, on voit qu'il y a cette volonté-là de former les personnes à l'écoute aussi, ça ne s'invente pas. De s'assurer qu'un certain nombre du coup de maladresses vont être évitées, que les conditions aussi matérielles de l'entretien soient favorables à la confiance et à ce que la parole puisse être libérée. Il y a également comment la structure va gérer des signalements, c'est-à-dire si elle protège, on constate qu'elle protège les victimes lors de signalements, que la prise en charge elle est exemplaire, que s'il y a besoin d'une sanction, elle est mise en place. Que la procédure de prise en charge est claire, qu'elle a déjà été exposée, etc. Tout ça, c'est aussi ça donne confiance, on va dire, pour des personnes victimes pour venir signaler un fait, un agissement sexiste ou une violence sexuelle. Cette politique de prévention dont on parlait, qui est portée par la structure, si elle est explicite aussi, qu'elle est communiquée régulièrement, je ne sais pas s'il y a des affichages, par exemple, dans l'organisation, peut-être des campagnes de communication. Ces fameuses sensibilisations ou formations qui sont régulières, également quand on accueille de nouvelles personnes dans l'organisation, que cette politique de prévention des violences sexistes et sexuelles au travail soit évoquée. Tout ça, ça permet de créer le climat qui va libérer la parole. Après, il y a très probablement plein d'autres points d'appui et c'est vraiment un travail perpétuel parce que c'est très complexe et de libérer la parole sur ce sujet.
Et c'est beaucoup l'organisation de l'entreprise qui fait aussi le reste, c'est-à-dire la façon dont la structure s'est organisée. J'imagine que ça a beaucoup d'importance.
Et puis la taille de la structure également.
Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a différents degrés d'engagement justement dans ces sujets-là, selon les structures, en fait, est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie ou de degré d'engagement, est-ce qu'on peut classer, est-ce qu'il y a un parcours à faire en fait ?
Je dirais pas qu'il y a hiérarchie. Par contre, c'est vrai que nous, la manière dont on regarde le sexisme au travail, et du coup, pour ça, on sait, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, des structures comme. Comme les agences régionales d'amélioration des conditions de travail ou autres structures qui travaillent notamment sur la prévention des risques professionnels ont déjà ces cadres de lecture. Nous, la manière qu'on a du coup d'aborder cette question du sexisme au travail, c'est comme un risque professionnel comme n'importe quel autre. Et du coup, il y a les mêmes codes de prévention. C'est vrai qu'on évoque souvent la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Je dirais pas qu'il y a une hiérarchie entre chaque. Par contre, c'est des approches qui sont complémentaires. La partie sensibilisation et formation dont on a eu témoignage là dans le reportage, c'est de la prévention secondaire. C'est souvent, on va dire, l'entrée la plus simple, bien que on en a parlé, c'est pas facile de commencer à parler du sujet, mais voilà, il existe quand même une offre de formation, une offre de sensibilisation, des outils qui existent. Alors, il y a encore plein de choses à inventer, mais voilà, on peut s'appuyer quand même sur de l'existant là-dessus. Et puis, la dimension prévention va du coup, sur cette partie-là, plutôt se jouer sur la régularité de ces temps, sur le fait que les équipes participent ou pas à ces temps de sensibilisation, parce qu'on peut les organiser, mais si personne ne vient, ça n'aura pas d'impact. Et puis, pour ce qui est des formations aussi, à l'adaptation aux besoins qui sont liés soit au poste, soit au mandat qu'occupent les personnes qui peuvent être du coup référentes sur les violences sexistes et sexuelles au travail ou référentes dans un CSE, etc. Mmh. Du coup, je parlais de prévention tertiaire. Du coup, c'est toute la partie prise en charge des signalements une fois qu'ils sont faits. Du coup, là, ça va être de mettre en place des procédures qui sont adéquates et puis toutes les étapes qui vont être nécessaires à la prise en charge. Bon, là, il y a des différentes manière de saisir de cette prévention-là et de ces procédures, c'est-à-dire que, bon, on va dire, le minimum, ça va être de se mettre en conformité avec les obligations légales. Après, on peut développer des procédures plus adaptées à nos publics, à la manière dont dont la structure fonctionne, etc. Et puis vraiment investir ce sujet-là. Après, celle que je n'ai pas évoquée, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire tout ce qu'on... Quand on parle de prévention des risques, c'est la partie prévenir le risque à sa source. Alors, quand on parle du risque de risque professionnel, c'est souvent l'entrée la plus simple. Enfin, en tout cas, ça peut l'être. Par exemple, voilà, il y a une étagère qui a des charges lourdes dessus et elle n'est pas fixée au mur, elle peut tomber sur quelqu'un. C'est un risque professionnel. Bon, ben voilà, on fixe cette étagère, on a réduit le risque à sa source. Pour le sexisme, c'est quand même un petit peu plus compliqué parce que voilà, on est quand même le sexisme, il vient pas de nulle part, il vient de la société dans laquelle nous évoluons, qui est du coup une société patriarcale, qui est marquée depuis de nombreuses années et nombreux siècles par des rapports de domination entre les hommes et les femmes. Et ça ne se déconstruit pas d'un coup de baguette magique dans une organisation. Maintenant, moi, j'aime bien me dire que justement, le travail, c'est aussi une micro-société, c'est un espace qui est circonscrit, qui a un certain nombre de règles aussi, dans lesquelles on peut agir pour, d'une part, transformer les comportements individuels, mais aussi poser collectivement des règles de vivre ensemble et un certain nombre d'interdictions sur des comportements qu'on estime inappropriés ou qui sont punis par la loi par ailleurs. Et que du coup, on peut aussi expérimenter des choses dans cette micro-société.
Alors justement, pour celles et ceux qui écoutent notre entretien et qui souhaiteraient que leur structure ou leur entreprise puisse aller de l'avant dans cette prévention des violences sexistes et sexuelles, quel est le conseil que vous pourriez leur donner pour peut-être amorcer quelque chose déjà ?
Je dirais peut-être de s'essayer sur un temps de sensibilisation. Après, quitte à faire intervenir une tierce personne, si on veut prendre un petit peu de distance et puis dépasser un peu l'appréhension d'évoquer soi-même le sujet. Mais voilà, on a des supports comme le jeu dont je parlais, des petites vidéos. Après, c'est toujours intéressant d'en parler aussi avec son réseau proche de structure. En fait, c'est un sujet qui est plus complètement anecdotique. Il l'était peut-être encore il y a quelques années, mais on en parle de plus en plus. Et finalement, peut-être une entreprise voisine ou avec qui on a l'habitude de travailler a peut-être aussi des bons conseils à donner. Et puis, ça donne un peu de la force pour venir s'engager après sur le sujet. Ça permet d'enclencher une dynamique peut-être. Et après, il y a l'idée aussi que les encadrants, encadrantes, les personnes, les instances de direction, les personnes à responsabilité se forment sur ces questions-là. C'est vraiment un inconditionnel, on va dire, pour pouvoir mettre en place un travail de fond dans une organisation. Et puis après, j'invite en tout cas les structures de l'économie sociale et solidaire qui souhaiteraient pouvoir travailler sur ce sujet ou savoir ce qui se passe aussi au niveau régional, comment s'anime cette animation régionale qu'on peut mener au sein de la CRES, se tourner vers nous pour voir où est-ce que nous en sommes et puis comment intégrer potentiellement les travaux collectifs. Également, s'il y a des questions pour savoir vers qui se tourner, on peut aussi tout à fait orienter vers des structures spécialisées, que ce soit en matière de sensibilisation, de formation ou pour accompagner la mise en place de procédures en interne. Et puis également vers des espaces d'échange entre structures, réseaux de l'ESS que nous, on peut animer côté CRES.
Eh ben, c'est bien complet. Et puis ne pas hésiter peut-être à aller sur le site internet de la CRES, où il y a sans doute beaucoup de ressources aussi à y trouver sur ce sujet.
Tout à fait. Je parlais de l'état des lieux tout à l'heure, une boîte à outils. Également, il y a une journée régionale qui a été faite sur ce sujet de la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail en décembre dernier. Il y a les actes de la... Enfin, les comptes rendus des différents ateliers, puis les personnes qui ont participé aussi, qui permettent encore une fois d'avoir des ressources sur vers qui se tourner pour animer un temps, etc.
Charlotte Fahrman, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes en charge des questions d'égalité et de prévention des violences sexistes et sexuelles à la CRES Bretagne, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Merci à vous, Charlotte.
Merci à vous.
Retrouvez notre magazine Plus d'excuses en diffusion sur l'ensemble des radios locales et associatives de la CorLab, sur Radio Boa également, leur émanation régionale en DAB+, et en podcast sur le site de la CorLab, corlab.org. À bientôt donc pour un nouvel épisode de notre série dédiée à l'égalité et aux actions de prévention des violences sexistes et sexuelles en Bretagne. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous et donc prenez soin des autres.
C'était Plus d'excuses, un magazine produit par la CorLab et Radio Boa avec le soutien de la Région Bretagne, de la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. en partenariat avec la CRES Bretagne, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la mission STURM et les CIDFF, le réseau des centres d'information sur les droits des femmes et des familles.